problèmes?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est donc l'émission Angle Mort qui commence avec un petit peu d'avance, ce qui nous permettra d'aller tranquillement et puis de pas finir en retard normalement. Voilà, l'émission Angle Mort, donc émission de critique sociale, d'expérimentation sociale, de sciences sociales critiques, et ce sera surtout de ça dont il s'agira ce soir, car nous vous proposons d'entendre une conférence sur les votes FN, une conférence que l'on doit à Patrick Lehingue, professeur en sciences politiques, et l'intervention que vous allez entendre s'est déroulée dans le cadre de l'édition 2014 du festival Raison d'agir. Alors le festival Raison d'agir, c'est un festival qui a lieu chaque année à Poitiers, courant avril à peu près, organisé par l'association donc Raison d'agir Poitiers, la Socio, l'association des étudiants en sociologie de l'université de Poitiers, qui existe depuis 2006, ce festival, et qui explore chaque année à partir d'une thématique, diverses questions sociales et politiques, en croisant donc des savoirs de sciences sociales, des points de vue artistiques et expériences citoyennes. Alors à titre d'information et d'exemple, en 2013, le festival traitait d'éducation et d'émancipation, en 2012 de démocratie, en 2011 de faire et défaire la mondialisation. Voilà, bon bref, je ne vais pas continuer comme ça cette liste. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous balader sur le site web du festival, www.festivalraisondagir.org, et voilà. Et donc l'édition 2014 du festival Raison d'agir 2014, donc qui a eu lieu en avril 2014, et on l'aurait pas bien compris, s'intéressait à la thématique suivante: l'amour de l'ordre, conservateur, réactionnaire, intégriste, etc. Dans ce cadre-là, les personnes qui ont assisté, participé, ont pu assister à des projections diverses, lectures, conférences, débats, présentations de résultats d'enquête, etc. On a pu y voir, par exemple, la projection du film Voyage dans les ghettos du Gotha, qu'on doit à Jean-Christophe Rosé, qui s'intéresse aux grands bourgeois, en suivant deux sociologues qui travaillent depuis des années sur cette question-là, qui sont Michel et Monique Pinson-Charlot. Michel et Monique Pinson-Charlot qui étaient d'ailleurs présents pour une conférence débat, voilà. Si je vous dis tout ça, c'est aussi parce que sur un lien qu'on mettra sur notre blog, on pourra retrouver les diverses interventions et les liens vers les films qui ont été projetés pendant ces quelques jours de festival.
Exactement.
Voilà. Et donc nous, on va s'intéresser à une conférence de Patrick Lehingue qui permet de mieux connaître et mieux comprendre les votes FN.
Oui, c'est ça. Donc Patrick Lehingue, tu l'as dit, professeur de sciences politiques à l'université de Picardie, qui intervenait sur l'électorat FN, Front National. Enfin, électorat, c'est aussi une notion à critiquer, qui, vous verrez dans l'intervention, c'est, on parle plutôt de conglomérat électoral, c'est d'ailleurs le titre de son intervention, un conglomérat électoral désordonné, point d'interrogation, les votes frottistes en France. Donc c'est une intervention qui a eu lieu le 11 avril, c'est-à-dire pour resituer après les municipales, mais par contre avant les européennes, donc ça se situe avant le... avant l'actualité la plus récente qu'on connaît. Mmh. Alors pourquoi rediffuser cette conférence ? Parce que justement le succès du Front National à ces deux élections, que ce soit municipales ou européennes, interpelle souvent, enfin elle donne lieu, moi j'ai eu à deux types de réactions en général chez les gens de gauche, significatif il me semble d'une difficulté à appréhender le phénomène et en même temps une volonté, enfin la nécessité de lui donner du sens. Donc deux types de réactions, il y a soit le déni pour se rassurer, c'est-à-dire que souvent, et moi je suis plutôt tendance à aller là-dedans, mais on va enlever le chiffre en pourcentage et on va regarder le chiffre brut pour voir que bon, en fait, d'une élection à l'autre, c'est pas une augmentation si énorme, etc. L'autre réaction est inverse, c'est plutôt le dépit, l'incompréhension, mais je comprends pas comment on peut, voilà, qu'on soit pas content, c'est voilà. Bon, qui peut des fois amener à des déclarations de changement de nationalité, genre un truc, ouais, si c'est ça, bon, c'est pas forcément non plus une. Donc, bon, pourquoi rediffuser cette intervention, c'est une intervention d'un politique qui a beaucoup travaillé sur la question, qui est pas trop technique pour le coup, sauf peut-être un peu sur la fin, donc on s'en excuse s'il y a des personnes qui estiment que c'est illisible, mais il me semble que ça se comprend bien le propos. Et puis bon voilà, qui permet du coup d'apporter quelques éléments essentiels sur la question, ce qui permet du coup d'avoir une meilleure prise rationnelle sur le phénomène, sachant que, il faut le savoir, pour une part, ce qu'on peut appeler science ici, c'est pas tant apporter une réponse ferme et définitive sur le phénomène, c'est plutôt montrer que les difficultés qu'on a à appréhender le phénomène et justement montrer, c'est déconstruire un peu les habitudes de pensée et montrer la difficulté à interpréter, quoi. Voilà. Donc peut-être une précision aussi là pour pas tout mélanger, parce que ça me semble important, c'est une intervention qui va parler des électeurs du Front National et non pas des militants d'extrême droite. Voilà, pour pas tout mélanger des fois des débats, c'est pas exactement les mêmes personnes quand même. Il faut distinguer. Voilà, bon, cette précision étant faite, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne écoute. S'il y en a qui nous rejoignent à ce moment-là, parce qu'il est 9h et que d'habitude on commence à 9h, donc c'est Angle Mort, émission de critique sociale et d'expérimentation sociale. On va vous diffuser une conférence de Patrick Lehingue sur le conglomérat électoral du FN. Et puis, on reprend la parole à la fin de cette conférence qui fait à peu près une petite heure. Bonne écoute.
Excuse peut-être encore plus sérieuse. Bon, le Front National, vous le savez, surgit presque ex nihilo à partir de 1984, des européennes de 84, donc ça fait quand même déjà 30 ans. Tellement d'encre ont coulé autour de cette formation, de son leader et de ses électeurs, que je suis à peu près persuadé de ne rien vous apprendre que vous ne sachiez déjà cet après-midi. Donc ce que je voudrais simplement aujourd'hui essayer de faire, c'est vous faire partager les raisons pour lesquelles, en sciences sociales, si on veut traiter un peu sérieusement le problème, on éprouve beaucoup de difficultés à appréhender les votes frontistes. Alors appréhender dans les deux sens du terme, c'est-à-dire avoir prise rationnellement sur des votes vis-à-vis desquels on nourrit d'assez légitimes appréhensions. Troisième excuse, j'ai bien conscience d'être un peu latéral, donc un peu désordonné par rapport au thème général du festival, c'est-à-dire l'amour de l'ordre. Alors je l'ai tordu de la façon suivante, je me suis retourné cette injonction, et l'idée en fait ce serait de mettre un petit peu d'ordre, un petit peu de régularité sociale et sociologique dans les raisons et les structures de ce conglomérat électoral qui est le vote frontiste. Et puis quatrième série d'excuses, j'arrêterai là mon autocritique à la chinoise, je vais malheureusement probablement vous noyer sous un déluge de chiffres. Alors c'est à la fois dû à ma formation disciplinaire, on a beaucoup de chiffres en sociologie électorale, c'est peut-être dû à des penchants cantophréniques dont je ne suis pas particulièrement fier, et puis c'est également peut-être utiliser beaucoup de chiffres, une manière un peu lâche de refroidir un objet dont on sait qu'il est assez chaud, voire même très brûlant. Alors peut-être pour commencer deux toutes petites précisions. Le Front National donc surgit électoralement en 1984. Il faudrait d'ailleurs s'interroger sur les raisons de cette apparition brutale. C'est un an après ce qu'il est convenu d'appeler le tournant de la rigueur. C'est au moment du lancement des très grands plans de licenciement dans la sidérurgie lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça correspond également, ces européennes de 1984, au moment où les taux d'abstention vont commencer à croître, quel que soit le type d'élection que l'on peut observer. La date tournante, c'est véritablement 84. Donc il y a une sorte de coïncidence qu'on continue à vivre aujourd'hui, de concordance entre la montée de ce vote, mais également la montée de l'abstention. Et petite singularité dont nous n'avons pas nécessairement à être très fiers, mais il y a une véritable exception française dont il faut quand même avoir bien conscience. Nous sommes, dans les démocraties occidentales représentatives comparables, le seul pays où une formation qu'on peut nommer, même en risquant un procès, d'extrême droite, obtient 10% et quelquefois plus des suffrages exprimés depuis 30 ans, et ce, sans quasiment aucune interruption. Alors je sais bien qu'actuellement, il y a des formations d'extrême droite dans un certain nombre d'autres pays, la Norvège ou la Suisse, qui obtiennent des scores encore plus importants que le Front National français, mais elles ont une moindre longévité électorale, donc là on a une sorte de record dans la permanence de ce vote, qu'il faudrait également peut-être un peu interroger. Deuxième petite précision, on a, si on fait une petite historique depuis 84, on a le sentiment un peu fallacieux d'une irrésistible montée par palier. Donc dans la seconde moitié des années 80, le FN, quel que soit le type d'élection, et Dieu sait si elles sont nombreuses en France, il y a à peu près une élection tous les 9 mois, le Front National donc est aux alentours de 10% dans la deuxième moitié des années 80. Il est dans les années 90 autour de 15%, et il est dans les années 2000 et 2010, désormais entre 15 et 20, et plus près de 20 que de 15. Donc on a ce sentiment d'un ancrage et en même temps d'une montée par palier, qui est un sentiment, c'est le premier point que je voudrais vraiment développer, très trompeur. D'abord, ne l'oublions jamais, le Front National a connu deux gros trous d'air. Si je puis m'exprimer ainsi, le premier, vous le connaissez tous, en 99, après la scission des maigrettistes et l'apparition du MNR, qui relègue le Front National aux européennes de 99 à 5% des suffrages exprimés, et qui surtout va lui coûter à peu près 60% de ses cadres. Et c'est une hémorragie dont il a eu beaucoup de mal à se remettre et dont il souffre, hein, dont il continue à pâtir d'ailleurs actuellement. On l'a vu dans la laborieuse constitution des listes lors des élections municipales qui viennent de se dérouler. Et le second trou d'air, bon, vous connaissez encore mieux, c'est évidemment l'épisode 2007, hein, le fameux siphonnage par Nicolas Sarkozy d'un bon tiers des électeurs de Jean-Marie Le Pen, et surtout, on l'a peut-être pas assez noté, le fait qu'aux élections législatives qui suivent, hein, au mois de juin, les candidats du Front National, hein, obtiennent 4,3% des voix, ce qui va entraîner d'énormes difficultés financières, hein, du fait de la perte du financement public pour ce parti. Donc ça permet déjà de nuancer, hein, l'idée de permanence, d'ancrage et d'une montée par palier. Il arrive, hein, et c'est pas complètement toujours accidentel, que ce Front National, en termes d'influence électorale, recule. Alors, rappelant tout cela, je pointe un problème, hein, sur lequel je vais essayer de m'apesantir, c'est celui de l'inconstance de ce vote. Alors, l'inconstance, hein, je ne l'utilisais évidemment pas en termes moraux, mais inconstance au sens simplement arithmétique du terme. Il y a une très grande variabilité des votes FN, il y a ce qu'on appelle une forte volatilité de ces votes, et c'est probablement l'une des dimensions les plus importantes de ce vote, et d'un certain point de vue, l'une des plus énigmatiques. Alors je vais commencer à vous saouler par un certain nombre de chiffres. Hein. Si je prends la période la plus récente, hein, pour pas remonter trop loin, Jean-Marie Le Pen, par exemple, obtient un peu moins de 4 millions d'électeurs en 2007. Je crois que de temps en temps, il est utile de pas simplement travailler en pourcentage, mais en électeurs. Et sa fille, 5 ans plus tard, en obtient presque 6,5 millions. Donc vous avez déjà une variation de près de 50%. Mais là, je parle d'un scrutin qui est le plus nationalisé qui soit, et qui est le scrutin où les variations du vote FN sont peut-être les moins fortes et les moins erratiques. Si je passe à un autre scrutin, comme par exemple les législatives, hein, en 2007, les candidats du Front National, qui sont présents partout, hein, sauf dans les dom-toms, réunissent à peine 1 million de voix. 5 ans plus tard, ils en obtiennent 3,5 millions. Alors, ça pose déjà un petit problème, hein. L'influence électorale du Front National, c'est quoi ? C'est 1 million, c'est 3 millions, c'est 5 millions, c'est 6 millions. Donc on voit déjà que on a une fourchette qui est assez large. Mais, me semble-t-il, il y a derrière tout ça une petite illusion d'optique. C'est-à-dire l'idée que les chiffres les plus bas que je vous ai donnés constitueraient une sorte de plancher historique et les chiffres les plus hauts, une sorte de plafond. Donc l'illusion vient du fait que on fait comme si les petits chiffres étaient nécessairement inclus dans les grands. Je m'explique. On fait comme si les 1 100 000 électeurs qui ont voté FN en législative de 97 avaient tous reproduit ce vote en 2012, 5 ans plus tard. Or, on a quelques indications assez sérieuses quand même qui nous permettent de dire que ça n'est pas du tout le cas. Donc que la volatilité est infiniment plus grande encore que ces quelques chiffres agrégés ne le suggèrent. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais j'ai un exemple, malheureusement un peu lointain, hein, il date d'une quinzaine d'années, d'études qui combinent, alors je répète, hein, je rentre pas dans les détails techniques, mais enfin je considère qu'elle est relativement sérieuse, c'est une étude qui combine à la fois des intentions de vote et une méthode mathématique, bon, c'est une sorte de matrice de mobilité électorale qui ressemble un peu aux matrices de mobilité sociale, où de manière incrémentaliste, hein, on essaye de caler, hein, les résultats réels avec ce que nous disent les matrices sondagières de transfert de voix. Bon, alors je rentre pas dans le détail, j'en arrive tout de suite aux résultats. Alors ça concerne la période 95-97. Au présidentiel de 95, Le Pen obtient 15,3% des exprimés. 2 ans plus tard, les candidats du FN aux législatives obtiennent strictement la même performance, 15,3% des exprimés. Donc illusion d'optique, parfaite constance, parfaite permanence de ce vote. Si on passe au nombre d'électeurs, bon, déjà ça change un peu, Le Pen avait obtenu 4 500 000 voix et les candidats du Front National 3 800 000 seulement. Donc ça fait déjà une sorte de déchet de 700 000 voix. qui est tout à fait logique, hein, et qui est due simplement à la poussée de l'abstention, hein, des présidentielles aux législatives. Mais ce que cette matrice nous apprend, c'est qu'en fait, le FN perd beaucoup plus que 700 000 voix en 2 ans. Il en perd, alors la matrice nous donne des résultats à l'électeur près, enfin je ne pousserai pas le ridicule jusqu'à vous donner des chiffres quasiment après la virgule, donc je vais arrondir tout ça. La matrice nous donne des flux de sortie d'à peu près 2 millions d'électeurs. C'est-à-dire il y a 2 millions d'électeurs qui avaient voté Le Pen en 95 et qui ne reproduisent pas ce vote lors des élections législatives. Et bon, on peut même décomposer assez finement, hein, ces 2 millions d'électeurs fuyants, si j'ose dire. 500 000 ont voté à gauche en 97, 500 000 à droite, et 1 million se sont abstenus. Alors j'avais écrit aux auteurs, hein, de façon un peu malicieuse, en leur signalant qu'ils avaient oublié qu'entre-temps, il y avait peut-être un certain nombre d'électeurs qui également étaient décédés. Donc il faudrait également introduire la démographie du corps électoral. Il arrive que des électeurs du FN décèdent, et d'un certain point de vue, c'est peut-être heureux. Donc vous avez 2 millions d'électeurs qui ont quitté Le Pen pour d'autres formations ou pour l'exit électoral, mais je rappelle le chiffre, hein, il avait perdu 700 000 voix. Bon, ça veut dire qu'il y a 1 300 000 électeurs qui n'avaient pas voté Le Pen en 95 et qui ont voté pour des électeurs du Front National en 97. Alors je peux là encore vous donner la décomposition, hein. 400 000 venaient de candidats de gauche en 95, 700 000 de candidats de droite et 300 000 soit des abstentionnistes, soit surtout des nouveaux inscrits. Vous faites le bilan, hein, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Vous n'avez en 2 ans, si j'ose dire, que 2 500 000 électeurs permanents et presque 3 300 000 électeurs mobiles. Autrement dit, le plancher est beaucoup plus bas qu'on ne pourrait le penser. Alors ça, c'est la version rose. Mais la version grise ou brune, comme vous le voulez, c'est que le plafond est également beaucoup plus haut que tous les chiffres agrégés, hein, ne permettraient de le dire. Alors c'est encore plus spectaculaire, parce que là j'ai pris un intervalle de 2 ans, c'est encore plus spectaculaire sur 2002, parce que je vous rappelle qu'en 2002, Le Pen est qualifié au deuxième tour, le deuxième tour survient 15 jours après le premier, et entre les deux tours, Le Pen gagne 700 000 voix. Bon, à l'époque, ça n'émeut personne, puisque Maigret avait obtenu au premier tour 700 000 voix, donc on se dit, bah, c'est un transfert, hein, de voix d'extrême droite vers un candidat d'extrême droite. En fait, la répétition de ce type d'analyse, hein, nous montre qu'en 15 jours, Le Pen a perdu 800 000 électeurs, mais on a regagné 1 500 000 en 15 jours de temps. Bon, ça vous donne une petite idée, hein, de l'ampleur, et ça vous permet de comprendre pourquoi j'utilise ce terme que j'emprunte à Daniel Gaxi, qui a l'air un peu pédant, hein, de conglomérat électoral. Parler de conglomérat électoral, hein, c'est pas une sorte de coquetterie, hein, d'auteur, c'est simplement essayer de répudier la notion d'électorat au singulier, qui connote toujours, hein, charrie toujours l'idée d'une homogénéité, d'une permanence, d'une constance, d'une sorte d'armée très disciplinée, qui serait mue par les mêmes motivations, les mêmes dispositions, et dont les membres, hein, occuperaient des positions très très proches dans l'espace social. Il me semble que c'est pas du tout ça, hein, l'électorat, avec beaucoup de guillemets, du Front National. Ça n'est ça d'ailleurs pour aucun électorat, mais particulièrement pour l'électorat frontiste. C'est un conglomérat, un agrégat qui parvient, et c'est pas une mince prouesse, à agréger, à opérer la conjonction toujours assez aléatoire, hein, de segments sociaux très divers, voire même souvent contradictoires. Bon, je vous rappelle, mais vous le savez tous, que ce qui caractérise par exemple ce conglomérat électoral du FN, c'est une surreprésentation à la fois chez les travailleurs indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs, et dans les mondes ouvriers. Et que quand on reprend l'histoire politique de la France depuis un siècle, aucune formation politique n'a réussi en un siècle à opérer cette conjonction, hein, de segments sociaux aussi polaires, hein, ayant des intérêts, des dispositions, hein, des modes de vie aussi différents. Alors, j'ai bien conscience que disant tout cela, c'est-à-dire insistant sur la très forte volatilité des votes frontistes, sur leur faible constance et consistance temporelle, donc en gros, il est aujourd'hui très haut, mais rassurez-vous, il ne cesse de monter et de descendre. Donc j'ai bien conscience, hein, en vous disant tout cela, de m'exposer à être accusé de tenir un discours un peu lénifiant, hein, un peu optimiste. D'où immédiatement deux bémols et deux précisions pour désenchanter un peu tout cela. La première, si je m'appuie à la fois sur les résultats électoraux du FN depuis 84 et sur certaines enquêtes d'opinion, alors pas sur toutes, notamment pas sur les enquêtes d'opinion électorales sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Enfin, disons qu'il y a un certain nombre d'enquêtes généralement non électorales qui sont moins biaisées, moins artefactuelles que d'autres, moins pires que d'autres. Alors, j'ai pas le temps de développer les raisons pour lesquelles elles sont moins pires avec beaucoup de guillemets. Alors, j'en prends une qui est relativement rare, donc relativement chère. C'est une enquête qui, d'ailleurs, a pas suscité l'attention des médias. C'est bizarre. Les rares enquêtes de qualité, les rares sondages d'opinion, ne font jamais la une des médias. C'est une enquête commanditée par les locales de France Bleu, réalisée par Ipsos au mois de novembre dernier. Qu'est-ce que nous dit cette enquête qui, je le répète, n'est pas explicitement pré-électorale? On ne demande pas aux gens pour qu'ils allaient voter lors des élections municipales. Ça nous dit à peu près ceci. Alors, je garantis évidemment pas la précision, la virgule près des chiffres que je vous donne. Mais ça nous donne des ordres de grandeur qui sont quand même intéressants. Cette enquête nous dit que 22% des sondés concèdent, déclarent ou avouent, hein, vous prenez le verbe qui vous intéresse, avoir déjà voté pour le Front National. Donc on aurait actuellement, dans le corps électoral français, à peu près 22% des électeurs qui disent en tout cas avoir déjà au moins une fois voté pour le FN. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une décomposition. 4% régulièrement, 8% plusieurs fois, 10% une seule fois. À cela s'ajoute 13% de sondés qui disent n'avoir jamais voté pour le Front National, mais sont aujourd'hui tentés de le faire ou ne l'excluent pas. Alors, il ne faut pas être évidemment naïf, hein, parmi ces 13%, il y a des électeurs qui ont déjà voté pour le Front National, qui n'osent pas le dire, et donc qui se réfugient dans cette catégorie un petit peu intermédiaire. Mais si vous jouez sur ces chiffres indicatifs, qui sont pas très éloignés de ce que l'histoire électorale du FN nous enseigne, ça nous donne les enseignements suivants. Alors là encore, deux scénarios. Scénario rose, si j'ose dire. Vous avez un noyau dur d'électeurs réguliers du Front National qui n'excède pas 4% de l'électorat. Ce qui serait plutôt réconfortant. Alors, scénario brun, il y a un potentiel total de 22 plus 13, de 35% des électeurs qui soit ont déjà voté, en le disant, soit ont déjà voté en ne le disant pas, soit sont tentés de le faire. Alors, voilà, le potentiel électoral du Front National actuellement, c'est 35%. Et donc, vous voyez que le plafond est encore plus bas qu'on ne le pensait, il n'est qu'à 4. Le plancher est encore plus bas qu'on ne le pensait, il est à 4. Mais le plafond, beaucoup plus élevé, il est à 35. Et qu'au total, la fourchette est extraordinairement large. Je signale qu'une même enquête, enfin une enquête voisine, en 2012, nous donnait un potentiel électoral total de 25%. Donc on est, voilà, un chiffre assez clair. On est passé d'un potentiel électoral d'un quart à un potentiel électoral d'un tiers des électeurs. C'est la situation qui prévaut actuellement. Alors ça pose, j'en ai bien conscience, un problème politique, voire civique ou moral. Ça pose également, mais vous me direz c'est un moindre mal, un problème sociologique. C'est-à-dire, quand on entreprend d'analyser les votes frontistes, de quel vote parle-t-on? Est-ce que on vise par là les 4% d'électeurs permanents, les 8% d'électeurs réguliers mais pas permanents, ou les 23% d'électeurs ponctuels ou virtuels? Alors, c'est pas un mince enjeu, parce qu'on réalise assez vite, dès qu'on procède à l'étrier croisé, que le degré d'adhésion aux thématiques les plus dures du Front National sont pas du tout les mêmes selon qu'on travaille sur tel ou tel cercle. Et aussi que la structure sociale de ces différentes composantes du vote FN sont quand même assez différentes. Notamment le noyau dur est essentiellement composé d'électeurs qui sont plutôt diplômés, plutôt âgés, ce qui n'est pas du tout le cas de la moyenne des électeurs frontistes. Alors vous l'aurez compris, il est très inconfortable et probablement très illusoire, probablement même inutile, de prétendre faire ce que tous mes collègues politologues essayent de faire depuis maintenant 30 ans, le portrait robot de l'électeur frontiste typique moyen. Alors, deuxième bémol que je voudrais introduire pour là encore essayer de désenchanter un peu les choses, je vous ai suggéré le faible degré de fidélisation des votes frontistes. La séquence électorale qui vient de se clôturer, alors, les municipales de 2007, au moins dans les villes hein, où le Front National est parvenu à présenter des listes. Donc ça nous fait 414 communes pour les villes de plus de 10 000 habitants. Cette séquence électorale tend quand même à sérieusement nuancer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que tout atteste que il y a une plus grande fidélisation du vote Front National dans la période récente. C'est-à-dire que les flux de sortie sont moindres, ou pour utiliser une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, on passe d'un état gazeux à un état beaucoup plus solide, hein, ce qui est l'inverse même de la définition en physique de ce qu'on appelle la volatilité. Alors, deux illustrations. Si on prend le seul point de comparaison qui est actuellement réalisable, c'est-à-dire les municipales de 95. C'est-à-dire, ce sont des municipales hein, où le Front National avait réussi à présenter 400 listes. C'était donc avant la scission maigrettiste. On avait eu, la séquence était la suivante, on a vu des présidentielles au mois d'avril et des municipales au mois de juin. Entre ces présidentielles et ces municipales, dans les villes où le FN avait était parvenu à bâtir des listes, les listes municipales avaient perdu près de 4 points par rapport au score de Le Pen au présidentiel. Si on prend ce qui s'est passé il y a à peine 15 jours, au municipal de 2014, donc, les listes Front National n'ont perdu que 2 points par rapport au score de Marine Le Pen en il y a 2 ans. Donc vous voyez bien que la volatilité ou le déchet hein, est moindre, ce qui tente à attester hein, une plus grande fidélisation, une plus grande constance relative en tout cas de ce vote. Et deuxième indication qui tendrait à nous montrer que ça se solidifie quand même un peu, ce qui n'est évidemment pas pour nous rassurer, ce qui se passe en cas de deuxième tour. C'est-à-dire quand les listes Front National parviennent à passer la barre du premier tour, donc la barre des 10%. En 1995, c'était le cas dans 213 villes, et d'un tour à l'autre, généralement en situation triangulaire, les listes Front National perdaient en moyenne 2 points. Cette fois-ci, hein, et ça concernait 244 villes, les listes Front National ne perdent plus qu'un point. Donc là encore, vous voyez que on maintient davantage hein, l'électorat. Et encore, ce un point est-il une moyenne hein, qui est la moyenne de situations très dispersées. Il y a des tas de villes où les listes Front National se sont effondrées, notamment quand on avait un duel gauche-droite assez serré. Vous avez par contre hein, un bon quart des villes où le Front National a progressé, et quelquefois très sérieusement progressé, d'un tour à l'autre. Alors j'en viens à la seconde partie de... mon exposé, ça va. C'est-à-dire la question qui me...
On va faire la seconde partie après une petite pause musicale, à nouveau les cadavres. Donc vous écoutez Angle Mort, une conférence de Patrick Lehung. Et à l'instant, les cadavres avec nos passaranes.
Demain, de cette démocratie, tu devrais faire notre bien. 14% de merde, de merde.
seconde partie de mon exposé, ça va. C'est-à-dire la question qui me turlupinait un peu au départ. Pourquoi est-il si difficile d'appréhender, en tout cas rationnellement, ce vote ? Alors question qu'on peut retourner de façon un peu plus positive. De quels instruments dispose-t-on en sciences sociales pour essayer de comprendre les votes frontistes ? Vous voyez, je cède à la doxa en disant le vote Front National ou l'électorat. Bon, ça, c'est des facilités de langage et il faut toujours essayer de s'en défier. Bon, finalement, il n'y a rien d'original. Sociologie électorale, si elle veut être une sociologie comme les autres, dispose à peu près des mêmes outils. C'est-à-dire, à tout seigneur, tout honneur en sociologie électorale, des sondages d'opinion. Mais également des analyses écologiques, c'est-à-dire la comparaison de la distribution spatiale des votes FN qu'on pourra comparer à la distribution sociale des unités sur lesquelles on travaille, des départements, des villes ou des cantons. En troisième lieu, des entretiens approfondis plus ou moins semi-directifs. Et en quatrième lieu, et c'est beaucoup plus rare, des observations ethnographiques. Alors je voudrais, de façon plus ou moins longue, balayer ces quatre techniques et montrer qu'à chaque fois, chaque technique engendre un certain nombre de coûts, mais permet également de faire voir des choses que d'autres techniques ne permettent pas. Donc l'idée, ce serait évidemment, c'est très banal ce que je dis, de pouvoir cumuler ces techniques, de pouvoir les croiser, mais il s'avère que c'est pas toujours très facile. Alors, technique royale, utilisée de façon quasiment monopolistique par un grand nombre de mes collègues politologues, le sondage d'opinion. Donc ça, c'est la première technique. Qu'est-ce que ça nous enseigne et qu'est-ce que ça nous empêche de voir ? Alors, je voudrais peut-être commencer par une première distinction que j'ai déjà esquissée. Je crois qu'il y a deux types d'enquêtes qu'il faudrait bien différencier. Les enquêtes électorales, d'intention de vote, pré- ou post-électorales, qui posent de très très sérieux problèmes, et d'autres enquêtes réalisées par des organismes un peu plus sérieux, avec un contrôle à minima d'un certain nombre de sociologues. Bon, je pense par exemple à des enquêtes réalisées par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, par, Julien en parlait tout à l'heure, le Haut Conseil à l'intégration. Et vous avez comme ça toute une série d'enquêtes qui ne portent pas frontalement sur la question des votes, qui portent plutôt sur des questions de valeur, mais qui nous renseignent latéralement, peut-être plus encore que les sondages d'opinion préélectoraux, sur cette question des votes FN et de leur structuration. Alors sur les enquêtes préélectorales, bon, le gros problème, vous connaissez tous, c'est la possibilité, bon, qui m'apparaît comme étant quand même assez faible, de pouvoir comparer ces enquêtes sur 30 années, puisque ce phénomène a 30 années maintenant d'existence. Alors pourquoi ? Parce que vous le savez tous, toutes les enquêtes préélectorales, en tout cas, les post-électorales, on est également obligé de le faire, sont des enquêtes redressées. En fait, les chiffres qui vous sont donnés ne sont jamais ce qu'on pourrait appeler les chiffres bruts sortis machine. Pourquoi ? Bah, pour une raison très simple, c'est que la dissibilité du vote FN est faible. Donc, un grand nombre d'électeurs FN répugnent à avouer, à concéder ou à brandir leur vote. Ce qui veut dire qu'au très longtemps, il a fallu redresser ces votes sans que les instituts nous donnent leur technique de redressement, voire même la valeur de leur coefficient de redressement, bon, à la louche, généralement multiplié par deux, les votes, les intentions de vote recueillies pour arriver globalement à une estimation pas toujours très précise de ce vote. Alors, ça pose un problème, parce que non seulement la dissimilité du vote FN est faible, mais, et c'est ça qui est préoccupant, elle est inégalement faible. Et c'est bien ce qui biaise toutes les analyses. Elle est inégalement faible. Elle est inégalement faible dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, alors je vais prendre un exemple sur l'espace social, par exemple. Le vote des femmes, le vote des électrices Front National. On sait maintenant que la dissimilité du vote FN est beaucoup plus faible chez les femmes que chez les hommes. Autrement dit, que les électrices du Front National répugnent davantage que les électeurs du Front National à concéder ou à avouer plus ou moins publiquement leur vote. Ce qui, en analyse électorale, nous donne ce qu'on appelle un gender gap, un écart de genre tout à fait fabuleux s'agissant du vote FN. Donc on a 8-10 points d'écart dans pratiquement toutes les études, jusqu'à très très récemment, entre le vote FN, ou la propension à voter FN des hommes, et la propension à voter FN des femmes. Le problème, c'est que cette dissibilité du vote FN, elle varie également dans le temps, et pas seulement dans l'espace social. On sait bien, hein, stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, que avouer un vote FN est désormais beaucoup plus facile actuellement que ce ne l'était il y a 4 ou 5 ans. Ce qui a plongé d'ailleurs les spécialistes des instituts de sondage ou les entreprises de sondage dans des problèmes archi compliqués, puisqu'ils ne savaient plus comment dresser. Hein, est-ce qu'il fallait dresser en multipliant par 2, par un 5, par un 3? Bon, il y a un bidouillage dont ils ne sont pas sortis véritablement vainqueurs. Alors, du même coup, pour en revenir au problème du vote, par genre ou la propension à voter selon le genre Front National, les dernières enquêtes nous indiquent une réduction spectaculaire du gender gap, hein, donc la propension des femmes à voter FN serait désormais pas complètement identique mais assez proche de celle des hommes. Alors on impute cela très généreusement au fait que Marine Le Pen est une femme, que c'est une mère de famille, et ceci et cela. Mais c'est également il est tout aussi possible, l'hypothèse est en tout cas tout à fait véridique, vraisemblable, que cette réduction de gender gap soit due simplement à une plus forte visibilité du vote FN chez les femmes. Donc vous voyez le genre de débat dans lequel nous plonge la comparaison à 30 ans d'écart de la structure de ce vote. Alors, sous réserve de tout ce que je viens de dire, quels enseignements, bon, alors nécessairement fragiles hein, et très précautionneux, peut-on tirer sur 30 ans? Alors, sans surprise aucune, cet électorat, vous voyez, ça y est, je cède au nom de baptême de mes collègues, hein, ce conglomérat électoral, s'est beaucoup restructuré. On n'a plus du tout les mêmes propriétés actuellement qu'il ne l'avait il y a 10 ans ou il y a 30 ans. Ce qui n'est pas complètement illogique, hein, si on a un peu en tête les chiffres que je vous donnais tout à l'heure hein, sur l'extraordinaire marge et fourchette hein, dans lequel ce débat, si j'ose dire, se vote. Alors, mais il y a également des constantes. Alors, qu'est-ce qui bouge? Alors, ce qui bouge, hein, pour aller très très vite, hein, c'est essentiellement quatre choses. Au départ, le vote FN était considérablement sous-représenté dans les tranches d'âge les plus élevées. Alors, ce qu'on attribuait à des effets de génération hein, et de socialisation, donc les plus âgés avaient été socialisés politiquement à l'époque des ligues, de Vichy, et avaient une sorte d'allergie à toute forme de fascisme ou d'extrême droite, ce qui est une explication qui peut sembler quand même relativement faible. Bon, cette sous-représentation du vote FN chez les plus âgés a disparu. Bon, ça, c'est un constat qu'on peut quand même relativement bien faire. Bon, ce qu'il a encore, hein, si on admet qu'à 30 ans, n'est pas non plus complètement invraisemblable, puisque les personnes âgées d'actuellement étaient les adultes d'il y a 30 ans. Bon, donc il y a des effets de cohorte hein, qu'il faudrait pouvoir suivre. Deuxième évolution, il y avait une sous-représentation très très forte du vote Front National chez les catholiques pratiquants réguliers. Là encore, mais ce ne sont probablement plus les mêmes, ne serait-ce que morphologiquement, cette sous-représentation, hein, cette plus grande répulsion à voter FN, a semble-t-il disparu. On a un vote des catholiques pratiquants réguliers, pour autant qu'on peut le saisir, parce que les effectifs sont plus très importants, on a un vote qui est pratiquement sur la moyenne nationale. Troisième évolution, alors je ne vais pas en dire grand-chose parce que j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un vote qui au départ était très urbain et qui s'est considérablement ruralisé. Alors j'ai un certain nombre de collègues très optimistes qui disent « bah oui, mais c'est les mêmes ». C'est-à-dire auparavant, ils vivaient en ville, maintenant, ils continuent à voter FN, mais ils sont partis à la campagne, ce qui me semble une hypothèse quand même un peu fragile. Et puis, dernier point, mais là encore, hein, je ne vous apprends rien, c'est un vote qui était très très ancré hein, dans les milieux indépendants, artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Je vous rappelle qu'en 88, l'APCS qui accorde de très loin hein, les plus forts suffrages au candidat Jean-Marie Le Pen, c'est la catégorie 2, hein, donc petit commerçant, artisan, chef d'entreprise, et c'est un vote, vous savez tous, qui s'est considérablement ouvriérisé. Voire même qui, dans les dernières enquêtes, hein, commence à sérieusement entamer la catégorie des employés, voire même, surprise, des employés du secteur public. voire même certaines fractions inférieures des professions intermédiaires, y compris des professions intermédiaires du secteur public. Donc on a un vote qui s'est considérablement restructuré. Je fais une petite parenthèse, mais je suppose que là encore je ne vous apprends rien, enfin il est toujours bon de répéter les choses. N'oublions pas que à chaque fois qu'on cite ces chiffres, on ne cite ces chiffres que par rapport aux votants effectifs. Et j'en ai un peu assez, même si c'est répété par plusieurs de nos amis et collègues, j'en ai un peu assez de l'antienne, le vote des ouvriers, le premier vote des ouvriers, le vote Front National, et le plus fort soutien au vote Front National vient des mondes ouvriers. Je vous rappelle quand même à toute fin utile que le premier vote ouvrier, c'est l'abstention. Et qu'aux dernières élections municipales, on a un indice d'abstention pas trop mal fait qui a été construit par Ipsos. On est à 53% d'abstention chez les ouvriers et à 30-31% chez les cadres sup. Donc à supposer que, ce qui est à peu près la proportion indicative qu'on cite toujours, qu'un tiers des ouvriers votent FN, c'est en fait un tiers des votants ouvriers qui votent FN, mais comme la moitié des ouvriers inscrits s'abstiennent, en fait, on arrive à un ouvrier sur 6. Et si on intègre, là, les enquêtes électorales de l'INSEE sont assez intéressantes, si on intègre les ouvriers qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ça fait moins d'un ouvrier sur 7 qui vote FN. Bon, fin de la parenthèse, enfin, je pense qu'il est toujours utile de rappeler ça. Alors, qu'est-ce qui ne bouge pas? Ben, il y a une constante, quand même, qui est le très faible niveau de diplôme, la très faible durée de scolarisation des électeurs FN. C'est pratiquement la seule chose qui n'est pas bougée, la seule constante du vote FN, alors qui en même temps nous permet quand même de réaliser, de faire la jonction avec la volatilité, puisqu'on sait que c'est chez les électeurs ayant le capital scolaire certifié le moins important, que la volatilité des votes est la plus forte, que la propension à l'abstention est la plus forte, et également que l'intérêt pour la politique est le plus faible. Donc tout ça, au total, hein, constitue quelque chose qui a l'air d'être relativement cohérent. J'indique, mais c'est une précision peut-être inutile, que quand je dis c'est la seule constante depuis 84, j'ai tort. Le vote est fait en 84 est tout à fait particulier puisque c'est un vote assez bourgeois. Je vous rappelle quand même que la tête de liste de la droite unie, qui est une droite d'opposition en 84, c'est Simone Veil, qui, outre le fait qu'elle est juive, est en même temps l'auteur de la loi sur l'avortement, ce qui n'a pas eu l'heure de plaire à un certain nombre d'électeurs conservateurs, qui se sont tout de suite ralliés dès 86 aux listes de droite ou candidats de droite traditionnels. Deuxième série de sondages, j'accélère un peu, les sondages donc sur les conditions de vie, les valeurs, les perceptions, qui me semblent d'un certain point de vue plus éclairants, moins fragiles, notamment parce qu'ils sont généralement barométrisés. C'est-à-dire, c'est la même question qu'on pose à intervalles réguliers, même si ça pose des tas de problèmes, parce que une même question peut revêtir des significations différentes à des époques un peu éloignées. Enfin, qu'est-ce que nous apprennent, mais là encore, est-ce que ça va véritablement nous apprendre grand-chose? Enfin, si, sur un point, je pense que ça nous apprend quelque chose. Qu'est-ce que nous apprennent ces enquêtes? Donc, je répète, là, ce que je tire, c'est le baromètre politique français, les études de la Commission consultative des droits de l'homme et du Haut Conseil à l'intégration. Ça nous apprend trois grandes dynamiques. La montée en France, en tout cas chez les enquêtés, les premières enquêtes datent d'il y a à peu près 15 ans, donc on a quand même une profondeur relativement importante. La montée des attitudes xénophobes, on pourrait même dire hétéro ou altérophobes, c'est-à-dire la défiance, le manque de confiance, la haine, la détestation des autres, et pas seulement des étrangers, et pas seulement des musulmans. Ce qu'on peut repérer sur des questions, qui pouvez-vous faire confiance, avez-vous le sentiment d'eux, etc. Bon, ça c'est une montée qui est très spectaculaire sur les quatre dernières années. Donc les deux dernières années du quinquennat Sarkozy et les deux premières années du quinquennat Hollande, qui correspondent, hein, bon, c'est une palissade, mais à la crise économique et à ce qui se passe au niveau social en termes de précarisation et à ce qui se passe sur le marché du travail, ça tombe évidemment pas du ciel. Ces valeurs ne sont pas suspendues dans le ciel pur des idées. Elles renvoient également à ce qui se passe en termes économiques et sociaux. Deuxième dynamique, bon, un sentiment, je ne sais même plus comment le nommer, hein, de dégoût, de défiance, quelquefois même de haine, hein, vis-à-vis de ce qu'il est convenu d'appeler la classe politique, hein, qui est corrompue, qui ne représente que ses seuls intérêts, qui ment, qui trahit, etc., etc. Donc il y a toute une série d'items à travers toute une série de questions qui montrent que là encore, les courbes hein, ont un profil véritablement exponentiel sur les quatre dernières années et on est sur des niveaux de défiance hein, qui atteint désormais 4 enquêtés sur 5. Et troisième processus, là encore, hein, on n'invente pas l'outil en disant cela, on l'invente un peu en montrant à quel point les choses se sont dégradées hein, ces 4 ou 5 dernières années. C'est la montée du sentiment de déclassement. C'est-à-dire sentiment de ne pas s'en sortir, de vivre de plus en plus mal, d'avoir une vision pessimiste de l'avenir, d'être persuadé que les enfants auront des situations infiniment plus dégradées que les nôtres, etc., etc. Alors, sur ces trois, ben, on peut construire après des échelles, mais bon, on n'est pas... assez souvent, c'est de la fausse science, et ça marche pas très bien. Donc, il vaut mieux hein, s'en tenir à un certain nombre de questions isolées. Enfin, sur ces trois dimensions, ce que l'on sait également, parce qu'il y a quand même un certain nombre de tri croisés qui fait référence au vote avoué ou passé des enquêtés, ce qu'on sait, c'est que sur ces trois dimensions, les électeurs du Front National sont sur les positions les plus polaires. Et de très loin. On parle quelquefois d'un rapprochement en termes de valeurs entre les électeurs de l'UMP et les électeurs du FN, hein, si vous faites simplement des axes hein, très très bêtes, hein, sur les attitudes xénophobes, voire altérophobes ou hétérophobes, sur le sentiment de corruption, hein, de césure complète hein, de la classe politique, et sur le sentiment de déclassement, hein, les électeurs qui se réclament du Front National hein, sont très très loin. Cette échelle. Du même coup, hein, on comprend mieux la montée du potentiel électoral. Si à la fois vous avez monté hein, de ces trois dimensions et que systématiquement les électeurs du Front National sont une extrémité de l'axe, on a une explication finalement assez simple, trop simple hein, probablement, de cette montée. Alors, ces explications hein, sur les dispositions, les valeurs, hein, dont je rappelle qu'elles ne plaident pas dans le ciel plus des idées, qui incitent au vote FN, leur problème, à mon avis, hein, et ça pourrait faire l'objet d'un débat sur lequel moi j'ai pas du tout les idées claires, le problème c'est que ces explications hein, souffrent de se situer à un très haut degré de généralité. Pour pas citer Bourdieu, hein, quand il était pas de bonne humeur, hein, il disait « c'est même pas faux ». Bon, voilà. Tous ceux qui ont des attitudes hétérophobes, qui sont dégoûtés de la classe politique, qui ont un sentiment de déclassement, ne votent pas Front National, même si on sait bien que la sociologie électorale, comme toutes les sciences sociales, est une discipline probabiliste. Hein. Donc, même s'ils ont une plus forte probabilité de voter Front National, on sait bien que tous ceux qui partagent hein, l'une, deux ou trois de ces dimensions hein, ne sont pas condamnés, si j'ose dire, à voter Front National. Donc ce qui m'embête, c'est... On va prendre un exemple, parce que je crois que je suis trop généraliste en disant ça. Ce qui m'embête, c'est que c'est par exemple le schéma du déclassement. Alors, c'est une sorte d'autocritique, parce que moi j'étais l'un des premiers en 2002 à dire, bon ben voilà, c'est très compliqué le Front National, ça vient, enfin les électeurs du Front National, ils viennent d'horizons très divers et tout, mais finalement, s'il y a un point commun, c'est qu'ils se perçoivent tous, subjectivement, à tort ou à raison, comme étant dans des situations, comme vivant une situation de trajectoire sociale descendante. Trajectoire sociale, biographique, familiale, professionnelle, peu importe. Bon. Moi, jusqu'à une date récente, je trouvais que ce schéma était intéressant pour donner du lien, pour essayer de comprendre quand même ce qui réunissait tous ces électeurs permanents ou virtuels. Bon, en même temps, vous admettrez avec moi que c'est une clé qui ouvre trop de portes, quoi. Hein, Et puis, ce qui m'embête un peu, c'est que finalement, c'est le même schéma du déclassement qu'on a utilisé pour expliquer mai 68, voire qu'on utilise pour expliquer la Révolution française et les intellectuels pour les taroïdes. Donc, à un certain moment, je mets pas à la poubelle ce schéma, mais force est de constater qu'il est probablement un trop général. Alors peut-être, mais je suis également très général en disant ça, qu'on pourrait faire appel à un autre concept de Bourdieu qui est celui de l'homologie. Hein, et même s'il est impossible de le démontrer mathématiquement, mais c'est pas grave, je pense que on tient quand même un fil relativement solide, un fil directeur relativement solide, si on admet que moi, électeur du Front National, me vivant comme étant aux marges de l'espace social, comme étant abandonné, comme étant laissé pour compte ou laissé à mon propre sort, je peux tout à fait me reconnaître dans la position complètement marginalisée, ostracisée de Jean-Marie puis de Marine Le Pen dans le champ politique. Alors vous avez une sorte de phénomène hein, d'homologie qui, à mon avis, hein, même si on ne peut pas le démontrer par A plus B, joue beaucoup, mais qui en même temps politiquement pose des tas de problèmes. Parce que plus on ostracise le Front National en tant que formation, plus finalement on active hein, ce phénomène d'homologie. Hein, qui fait que les ostracisés se retrouvent dans la formation qui est la plus ostracisée. Et en même temps, faut-il ou pas l'ostraciser ? Donc est-ce que la stratégie de containment hein, est ou non payante électoralement ? Bon, je passe sur la deuxième technique, hein, la géographie électorale. On se dire simplement à mettre en relation hein, les résultats hein, qu'obtiennent les différents candidats du Front National aux différentes élections avec un certain nombre de propriétés sociales, des lieux sur lesquels on les étudie. Alors, ça nous permet d'avoir deux confirmations et deux nouveautés. Première confirmation, la profonde restructuration de ce vote. Hein. Donc là, bon, il suffit hein, de produire hein, des courbes hein, ou des nuages de points, c'est très simple. Hein. La première apparition du vote Front National en 84, c'est les centres-villes bourgeois. Bon, moi, dans ma région, Picardie, hein, les trois villes qui accordent le plus de suffrages aux européennes de 84 au Front National, c'est, ça va tout de suite vous dire quelque chose, Chantilly, Senlis et Compiègne. Voilà, en 84. Et puis, dès 86, c'est Creil, où c'est les quartiers nord d'Amiens. Peu à peu, hein, à partir de 95, hein, alors évidemment, on va pas faire une chronologie très très précise, mais enfin, on voit bien comment ça se déplace. On est de plus en plus sur un vote périurbain, et on est, depuis 2002, depuis 2007, et plus encore, depuis 2012, sur un vote franchement rural. Hein. Donc vous avez une sorte de relation alors, qui est éclatante, hein, quand vous mettez simplement en relation la taille de la commune et le vote FN. Et là, c'est pas des données de sondage, hein, c'est, si j'ose dire, du dur et du réel. Il n'y a pas d'histoire de décibilité ou de redressement. Vous aviez une courbe qui, vote FN, taille de la commune, était comme ça, hein, en 86, et qui est maintenant exactement comme ça. Donc là, c'est une profonde restructuration hein, que la géographie électorale ou l'analyse écologique permet de voir. Ce que ça permet de voir également, alors, j'ai un papier là-dessus que, alors ça pose des débats, ça pose des problèmes, je suis désolé de ne pas pouvoir participer au débat parce que je voudrais bien en parler. C'est un papier que je n'ose pas sortir, hein, parce que quand on travaille sur les coefficients de corrélation hein, entre, par exemple au niveau des cantons, des 4000 cantons, c'est quand même pas tout à fait rien, entre les votes FN, hein, notamment présidentiels, et les positions, les propriétés sociales, notamment les professions et catégories socio-professionnelles, des électeurs, par canton, saisis au niveau le plus fin, enfin, dont on dispose, c'est-à-dire les PCS à deux chiffres, hein, donc pas seulement les ouvriers, mais les ouvriers qualifiés, non qualifiés, industrie, artisanat, chauffeur routier, ouvrier agricole, donc une nomenclature plus fine, les coefficients de corrélation les plus forts, hein, avec le vote Le Pen, c'est ouvrier. Ça, il n'y a pas de problème. Enfin, statistiquement, je pense que il n'y a pas d'ambiguïté, hein, quelle que soit l'échelle que vous preniez, avec des choses assez bizarres que j'arrive pas à m'expliquer. Plus les ouvriers qualifiés que non qualifiés, et coefficients de corrélation plus importants chez les ouvriers qualifiés de l'industrie que chez les ouvriers qualifiés de l'artisanat. Bon. Donc ça c'est une deuxième confirmation, hein, bon, qui par rapport à ce que donnent les données de sondage. Alors, les choses qui changent peut-être un peu, Alors je vais juste en donner une, hein, parce que je vois bien que oui, il faut que je finisse bientôt. C'est le rôle joué par les inégalités. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire, on peut faire là encore des diagrammes très très simples, hein, enfin qui demandent juste d'avoir les données. Donc une fois que vous avez constitué les bases de données, c'est simple. Si vous travaillez sur la plus ou moins grande richesse ou pauvreté des communes, hein, vous pouvez mettre ça en abscisse avec un indicateur comme je sais pas le revenu médian des ménages. Hein. Donc globalement, hein, les communes les plus pauvres vont avoir un vote Front National plus important. Et les communes les plus riches, Boulogne-Billancourt, le 16e, Neuilly, vont avoir un vote Front National plus faible. Bon, ok. Mais ça marche pas du feu du diable. Hein. Ça discrimine pas véritablement les votes. Ce qui discrimine les votes, c'est quand vous introduisez une deuxième variable, et là c'est très intéressant, qui est, par exemple, moi j'ai pris le coefficient de Gini, c'est-à-dire les inégalités de revenus à l'intérieur d'une commune. Plus les inégalités de revenus à l'intérieur d'une commune sont fortes, à revenu moyen constant, et plus la probabilité du vote FN est forte. Alors je sais pas si après on pourrait prendre des exemples, on n'a pas le temps. Fréjus-Saint-Raphaël, par exemple. Alors Saint-Raphaël revenu un peu supérieur à Fréjus, et en même temps un coefficient de Gini sur Fréjus, hein, des inégalités à Fréjus, hein, qui sont infiniment plus fortes que à Saint-Raphaël. Et on pourrait prendre, je sais pas, Lille par rapport à Montpellier, par exemple, ou Montpellier par rapport à Béziers, et on verrait. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est à la fois des inégalités objectives, hein, c'est mesuré statistiquement, mais en même temps, comme on travaille quand même sur des petits périmètres, c'est des inégalités bon vécues. Il y a une ségrégation spéciale, hein, qu'on ne peut pas ne pas vivre quand on travaille à Lille, par exemple. Lille est une des villes qui a le coefficient de Gini le plus élevé. Hein, mais si vous allez un peu à Lille, entre les quartiers sud et le centre-ville de Lille, bon, vous comprenez tout de suite de quoi il retourne. Alors, autre technique, mais je vais devoir conclure, hein, les entretiens. Alors, le problème des entretiens approfondis, c'est qu'il faut trouver des électeurs Front National. Hein. Paradoxalement, c'est très facile de discuter avec des cadres du Front National. Hein. Ils adorent raconter leur vie. Ils sont très flattés qu'on vienne les voir. Et donc, ça leur donne un surcroît de légitimité. Bon, les électeurs, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, pas seulement parce que le vote Front National n'est pas discible, ou peu discible, ou ne l'a pas toujours été, mais également parce que ces électeurs, généralement, ont pas un gros intérêt pour la politique, ont de fait une faible compétence politique, et donc détestent être mis dans la position, hein, de l'élève qui doit répondre aux questions du prof sur des questions politiques. Donc, ça pose des tas de problèmes, hein, d'interroger les électeurs du Front National, et mieux vaut, hein, avoir recours au récit de vie. Et dans ce cas-là, bon, ça donne quoi ? Bah, ça enrichit considérablement, hein, quand même les données de sondage, notamment toutes ces données sur les attitudes. Ça nous montre que finalement il y a peu de racisme, mais par contre, hein, effectivement, que cette défiance vis-à-vis des autres, l'étranger pouvant simplement se limiter aux gars qui sont pas du coin, hein, renvoie généralement à une situation, hein, de très grande inquiétude par rapport à la concurrence généralisée sur les marchés du travail, du logement, ou sur le marché des aides sociales. Renvoie, ce que ça nous apprend également, enfin moi ça me frappe toujours beaucoup, c'est la détestation de l'assistanat social. Et au-delà, et là c'est quand même très grave, du système de protection sociale, qui ne bénéficie qu'aux autres, et en fait qui bénéficie aux bougnoules ou aux bougnoules blancs. On a eu cette expression, hein, qu'ont recueilli deux collègues du CURAP, hein, Sébastien Vignon et Emmanuel Pierru. Hein. Vignon et Pierru étaient très énervés, hein, de temps en temps on perd son calme en entretien, par quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire bon voilà, les allocations c'est que pour les étrangers, et à un certain moment ils interrompent l'électeur et ils lui disent bon mais il y a également des blancs. Hein. Ah ouais, vous avez tout à fait raison, ceux-là je les appelle des bougnoules blancs. Oui, une grande inventivité lexicale dans tout cela. Et puis quand même, alors mais là ça suppose des entretiens approfondis, ça suppose une certaine intimité. Hein. L'idée que longtemps j'ai cru fantasmer, hein, d'être sur une pente sociale déclinante est une idée, quand ces électeurs vous racontent leur vie, est une idée qui prend quand même un peu de chair. Hein. C'est pas complètement fantasmatique, mais qui s'enrichit considérablement, parce que derrière tout ça, vous avez toute une série d'accidents biographiques, beaucoup de divorces, une rupture à peu près complète avec les enfants, etc. Et bon, alors là encore, vous voyez, on ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'il n'y a pas que les électeurs du Front National qui divorcent ou qui ont des problèmes avec leurs enfants. Je suis quand même surpris, hein, bon, il y a une thèse d'une de mes doctorantes, consultante, Christelle Lagier, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, du nom très important, hein, de décalage et d'accident biographique chez les électeurs. Là, ici, c'était les électrices du Front National. Mais il y a des tas de choses que... j'ai pas de formation psychosociologie et j'ai même une petite distance par rapport à cette discipline. Mais par exemple, l'amour, voilà, la dévotion des animaux par rapport à la haine des humains, bon, c'est quelque chose que vous rencontrez tout le temps. Je sais pas comment faire, mais bon, je vous soumets ça. Bon, alors, je termine, j'ai pas de temps de parler d'observation ethnographique. Je termine en signalant quand même, alors il y en a des tas, mais un gros manque dans mon exposé, c'est que j'ai pas parlé de l'offre. Évidemment. Et ça, c'est le maillon qu'il faut, évidemment, quand je dis un maillon, c'est trop faible, qu'il faudrait introduire. Hein. Le vote, hein, c'est finalement l'expression de goûts et de dégoûts sociaux informés par des trajectoires biographiques sous contrainte d'offres. Et donc, il faudrait à chaque fois réactiver, pour comprendre tout ça, la structure de l'offre, la structure de l'offre politique, donc imputer la responsabilité des formations politiques classiques qui, certes, ont cru faire le travail en ostracisant plus ou moins ouvertement le Front National, mais qui ont installé les problématiques du Front National au cœur du débat politique. Je crois que le grand succès du Front National, c'est pas tellement le fait qu'il remporte 11 mairies ou 12 mairies, ou qu'il fasse 17%, c'est que les problématiques, c'est-à-dire au sens fort du terme, les manières de poser le problème, ou les problèmes du Front National, sont désormais au cœur du débat politique, et on ne se positionne plus que par rapport à ces... problématique. Là, je crois que la responsabilité, outre les politiques publiques suivies, des responsables politiques classiques est évidemment assez écrasante. Voilà, je suis désolé de bâcler tout cela. J'ai encore 15 secondes, peut-être.
Ouais, pas trop, ouais. Mais au point
où on en est. Oui, mais ça reste très impressionniste. Mais j'essayais de trouver des points communs entre les 28 communes qui ont accordé, vous voyez, c'est un chiffre un peu arbitraire, qui ont accordé plus de 30% au Front National lors des dernières municipales. Et j'ai trouvé 5 variables, je parle le langage des variables quitte à me faire assassiner, 3 sociales et 2 politiques. Hein, toutes ces communes, c'est assez frappant. 1, sont des communes pauvres, ce qu'on repère sur le revenu médian. 2, des communes qui s'appauvrissent de plus en plus, qui sont en déclin dans le pire des cas démographiques, mais également économique, industriel, disparition des commerces en centre-ville, etc., etc. 3 sont les communes, je le disais tout à l'heure, où les coefficients de Gini, hein, les inégalités sont les plus fortes. 4 sont des communes, et là, on a des variables proprement politiques, où les municipalités sortantes ont failli, hein, avec des scandales, des mises en examen, etc., etc. Et 5 où il y avait quand même une armature militante du Front National, voire un responsable un peu saillant. Ces deux dernières dimensions que j'ai volontairement négligées sont quand même des dimensions qu'il faut toujours quand même intégrer dans l'analyse pour essayer de comprendre pourquoi à un certain moment il y a tant de pourcents à Béziers ou tant de pourcents à Perpignan et pourquoi des villes apparemment proches ont des scores très largement inférieurs. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long.
Merci.
Le gros bois de Pandore, boîte noire et caisse d'or. Me suis mis gêne, me suis mis fort. Échappé au signalement, sous la pushka de mes 30 ans. Dans la nuit des morts vivants, parmi les leurres des écrans, je cherche l'angle mort, le vrai bug, le fort accord.
Voilà, donc vous avez donc écouté une intervention de Patrick Lehingue, intervention qui avait été réalisée à l'occasion du festival Raison d'agir, qui s'est déroulé à Poitiers en avril dernier. Vous pourrez retrouver cette intervention et plus globalement cette émission sur le blog de l'émission Angle Mort. Alors le chemin pour retrouver le blog de l'émission, c'est d'aller sur le site de Radio Canu et puis vous allez ensuite dans la rubrique les blogs des émissions et ensuite vous cliquez sur Angle Mort. Voilà, on en profite aussi pour remercier chaleureusement les organisateurs du festival Raison d'agir qui ont bien voulu accepter qu'on diffuse cet entretien qui a été enregistré à l'occasion de leur festival. Est-ce que Eric, tu veux rajouter un petit mot ?
Non, bah si, peut-être. Bon, sans, enfin si y a des points qui aux auditeurs ont semblé peu clairs, on se fera un plaisir. Enfin, vous pouvez nous laisser des commentaires hein, sur le blog. On se fera un plaisir de tenter d'y répondre autant qu'on peut, voilà, ou de renvoyer. voilà. Et puis donc sur le blog, oui, on mettra. Il y a beaucoup d'autres conférences de ceux qui sont mis en, enfin qui étaient mis en lien en même temps que cette conférence de Patrick Lehmann. Donc on renverra vers tout ça et n'hésitez pas à aller farfouiller.
Voilà.
Bon.
On se quitte là-dessus. On vous dit à dimanche prochain et puis on laisse la place à l'émission La Causerie. Bonne soirée.
Ciao.
À la périphérie des champs, au cœur des poudrières. Et si je sors le soir et promène mon ulcère en quête d'un peu d'air pur ou d'un coin calme où m'asseoir. Si je marche sans faire d'histoire, limpide et sans mystère, il n'est pas rare que j'entende mon trop d'identité. Bonsoir. Non, je ne vais nulle part et puis je n'attends personne. Alors à quoi on me compare et de quoi on me soupçonne? Quelle est l'utilité que vos unités me talonnent quand je ne fais que méditer, adossé à une colonne? Je ne pose aucun problème, donc je pense et suppose que ma forte dose de mélanine est la seule mise en cause. Souvent vue comme mauvaise lors des bavures commises et sur qui pèse en temps de crise de grandes mises en parenthèse. Je n'y peux pas grand chose si nous ne sommes pas en phase. Voici mes papiers, relevez mon adresse et mon blase et arrêtez de me palper à la moindre occasion. Car à la base ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
Je cherche un peu.
Par des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant envers,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des gens,
au cœur des poudrières.